Alors oui, bonsoir. Exceptionnellement, il n'y aura pas de générique parce que mais parce que c'est comme ça et ça nous fera encore plus de temps pour vous parler des deux sujets dont on voulait vous parler ce soir, deux sujets dont on n'aura peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout, et si c'est pas le cas, ben on reprendra la semaine prochaine le temps qui nous aura manqué. Alors dans la seconde partie de l'émission, on vous parlera de Marseille et du trafic de drogue à travers l'interview d'un journaliste qui est particulièrement ardu sur ces questions, puisque ça fait une vingtaine d'années qui suit le problème et qui démonte justement toute cette espèce de mystification autour du narcotrafic. En tous les cas, il analyse vraiment très dans le détail et de manière très matérielle, au sens matérialiste, qu'est-ce qui produit ces nouvelles relations à l'intérieur du trafic de stupéfiants. Et il explique vraiment très très bien la généalogie du trafic de stupéfiants à Marseille en général, et puis d'une manière générale son organisation, puisque évidemment telle société produit tel type d'illégalisme, et il n'est pas anodin que les modalités du trafic de drogue tel qu'on le voit aujourd'hui soit en parfaite résonance avec la société dans laquelle on vit, puis à savoir le capitalisme et la concurrence de tous contre tous. Mais ça, on se le garde de côté pour la deuxième demi-heure. Dans la première demi-heure, on va parler d'une militante turque, et des militants turcs, mais d'une militante turque plus particulièrement, qui s'appelle Zehra Kurtay, qui est en grève de la faim depuis le 8 juillet de cette année. Oui, vous avez bien entendu, le 8 juillet, puisque Zehra, après 18 ans de présence sur le territoire français avec le statut de réfugié politique, s'est vu retirer en 2016 son statut de réfugié et s'est vu notifier une obligation à quitter le territoire français au mois de mars. De cette année, obligation qui a été, alors non pas annulée, mais tu reviendras dans le détail, Denis, suspendue par le tribunal administratif de Melun. Et pour le moment, elle dispose d'un titre de séjour de 3 mois seulement, renouvelable, évidemment. Et elle est en grève de la faim et en lutte pour récupérer
J'ai connu les idées révolutionnaires en Turquie quand j'étais au lycée, et j'ai décidé d'être révolutionnaire dans ces années-là en Turquie.
Üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin içerisinde bir antifaşist olarak faşizme karşı mücadelede yer aldım.
À l'université, j'ai participé à des comités révolutionnaires antifaşistes et j'ai pris place dans cette lutte.
Daha öğrenci mücadelesinden sonra Mücadele isimli
après avoir lutté auprès des étudiants révolutionnaires, j'ai commencé à travailler dans un journal qui s'appelle
La lutte.
Mücadele.
Bu gazetede çalışmaya başladıktan itibaren tutuklandım. İlk tutuklumu bu sırada yaşadım.
J'ai été emprisonnée après avoir commencé à travailler dans ce journal.
Sosyalist bir gazete olduğu için bizi terörist ilan etmeye o zaman başladılar.
Ils ont commencé à nous traiter de terroristes puisque c'était un journal socialiste.
Bu tutuklukla birlikte 4 kez tutuklandım. Toplam 7 sene hapis yattım.
Après cet emprisonnement, j'ai été emprisonnée au total 4 fois et j'ai été emprisonnée pendant 7 ans.
Büyük ölüm orcu direnişine katıldım. 1. Ekim.
Dans les années 2000, j'ai participé aux grèves de la faim qui ont eu lieu dans les prisons turques contre l'isolement. Et j'étais dans les premières équipes. Cette résistance, pour info, a duré 7 ans. C'était une très grande résistance où 122 personnes sont tombées en martyr dans les prisons turques.
Yazdım, günlük haberlere gittim, işçi haberlerine gittim. Mm-hmm. Ama özellikle bir konudan kaynaklı tutuklanmadık yani o.
J'ai écrit des articles par rapport aux ouvriers, par rapport aux luttes en général aussi, mais c'était pas seulement par rapport à une information ou un article, c'était le journal en général, comme c'était un journal socialiste et révolutionnaire, idéologiquement parlant, ça les dérangeait.
Ondan sonra tekrar hapishaneye dönme riski olduğu için ailem beni buraya gönderdi.
Après cette résistance de la grève de la faim en Turquie, j'ai été handicapée. Et donc, avec ma famille a décidé de m'emmener en France pour être soignée. Et j'avais aussi un risque d'être réemprisonnée.
2007 yılında geldikten hemen çok kısa bir süre sonra oturumu aldım.
Après être venue en France en 2007, j'ai eu mon titre de séjour très rapidement.
Yaşadıklarım Fransa'yı çok ilgilendirdiği için, çok hassas yaklaştıkları için hemen oturum verdiler.
Ils m'ont donné un titre de séjour parce que selon la France c'était un sujet important.
Fakat 10 yılım dolduktan sonra gene aynı hassasiyetle, aynı gerekçelerle oturumu geri aldılar.
Seulement 10 ans plus tard, après avoir eu un titre de séjour de 10 ans, la France pour ces mêmes raisons m'a retiré mon titre de séjour.
Bu arada tutuklandım. Tamamen demokratik haklarımı kullandığım için, FETÖ'lüğünteye katıldığım için, 1 Mayıs'a katıldığım için, dergi okuru olduğum için bu sebeplerden kaynaklı 5 yıl ceza aldım ve
et entre-temps j'ai été emprisonnée en France aussi, ne kadar?
5 yıl.
Pendant 5 ans pour des raisons démocratiques, pour avoir utilisé mes droits démocratiques, avoir participé au Festival de l'Humanité à Paris, pour avoir continué à écrire mes articles et participer à des manifestations.
Merkezi bir politik olarak bunu düşünüyorum. Devrimcilerden başlayarak bütün yabancılara yönelik çok ciddi bir saldırı politikasının başlangıcı olarak düşünüyorum.
Je pense que c'est le commencement d'une politique centrale, si on peut dire. Il commence par les révolutionnaires, les personnes politiques, en leur enlevant leur titre de séjour, en les renvoyant. Et je pense qu'ils vont continuer avec d'autres étrangers qui ne sont peut-être pas aussi politiques ou peut-être pas du tout.
İslamcı teröristlerin 2015 yılından 2015 yılından itibaren başlanan yaratarak Fransız emperyalizminin halklara karşı yeni bir saldırısı olarak.
Donc après les attentats à partir de 2015, la France a pris des décisions et a créé des nouvelles lois. Et c'est grâce à ces lois-là que, en fait, aujourd'hui, ils peuvent nous retirer nos droits de cette façon aussi simple, quoi.
Fransa'yı sadece sarı saçlı mavi gözlerin bir toprağı olarak görmek istiyor. Bu saldırılar da bahane yapmış oldu. Yani yabancılardan, kara kafalılardan kurtulmak için bu saldırıları kendine bir gerekçe olarak.
Je pense que l'impérialisme français veut une France et des terres avec des personnes blondes aux yeux bleus et seulement blanches et veulent
Türkiye'ye Türkiye faşizmle yönetilen bir ülke.
La Turquie est un pays qui dirige avec le fascisme.
Özellikle bugün iktidar gibi düşünmeyen herkes, ama herkes hapishanede.
Aujourd'hui, toute personne contre le gouvernement qui ont des idées différentes sont emprisonnées.
Kayıpların gizli işkence merkezlerinin olduğu bir ülke.
C'est un pays où on perd des personnes qui sont en garde à vue, où il y a des centres secrets de torture.
Ben de Türkiye'ye gittiğimde hapishaneye işkence göreceğimi ya da kaybedileceğimi biliyorum.
Et je sais très bien que si aujourd'hui je vais en Turquie, je vais être soit emprisonnée, soit torturée, soit perdue en garde à vue.
Çünkü Türkiye'nin aradığı kişilerden biriyim.
Car je suis une des personnes recherchées par la Turquie.
Yani şöyle, iltica hakkı 1951 yılında uluslararası sözleşmelerle dünya halklarına sunuldu ve Fransa'da 1954 yılında bu hakkı tanıdı. Cenevre Sözleşmesi var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Diyor ki kendi ülkesinde işkence görmüş, mağdur olmuş bir insanın bir başka ülkeye sığınma hakkı vardır.
Alors après les accords internationaux en 1951 que la France a signé et l'accord de Genève qui a été signé en 1954, la France accorde le droit d'asile politique à des personnes torturées ou en danger dans leur pays.
Bu uluslararası anlaşmaları kabul eden, özellikle bu son yıllarda halklara yönelik saldırısını bu şekilde de.
Et la France qui accepte ces accords internationaux à ce moment-là aujourd'hui commet un crime en fait en faisant des politiques pareilles.
Avrupa İnsan Hakları mahkemesinden en çok ceza alan ülkelerden biri Fransa.
La France est un des pays qui prend le plus de qui est le plus jugé, qui a le plus de peine par rapport à la Cour des droits européens.
Bunun sadece sembolik bir direniş olarak görmüyorum ben.
Je ne vois pas cette résistance seulement comme une résistance symbolique.
Fransa
se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000
alors, se déchirent. Comme vous avez peut-être pu le constater, ça merdouille, mais c'est pas grave. Donc là, on vient d'entendre Zera qui terminait son propos. On était presque arrivé à la fin de son propos où elle expliquait que sa lutte, c'était simple, pas seulement sa lutte pour elle, c'était la lutte pour elle, pour ses camarades turcs et kurdes qui sont frappés par la révocation de leur statut de réfugié politique en France, puisque on va y venir, c'est quelque chose qui touche de très nombreux militants politiques turcs. Quand on dit très nombreux, ça concerne plusieurs dizaines de personnes qui, entre les arrestations ou et les révocations des statuts de réfugiés politiques, et puis d'une manière générale, elle parlait aussi de défendre les droits des étrangers qui vivaient en France. Et ce qu'elle expliquait, c'est que elle refusait d'être une victime en Turquie, et donc elle refuse d'être une victime en France, et que pour elle, le simple fait de vivre, c'est de lutter, et lutter, c'est vivre. Et c'est pas grave ce qui lui arrivera, le simple fait de lutter démontre qu'on peut réussir à se battre et à se relever, quelle que soit sa situation. Il faut dire que Zera est quelqu'un qui a connu la prison en France entre 2012 et 2016, et que pendant 10 ans, elle a pointé au commissariat toutes les semaines. Et elle a donc été en prison à cause des accusations d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. C'était une des premières un des premiers jugements, un des premiers procès qui était sous cette appellation après l'état d'urgence. Et Donc, il lui était reproché en fait de faire de la politique en France et de poursuivre ses activités politiques et révolutionnaires qu'elle avait en Turquie. Ce qui, en fait, pourquoi elle avait eu le statut de réfugié, en fait. Ouais. Là, on est arrivé dans une espèce de folie où ce qui était reproché par l'instruction, en l'occurrence une instruction menée par le juge Thierry Fragnoli, qui sera deviendra célèbre puisque c'est lui qui instruira l'affaire de Tarnac. Alors rassurez-vous, hein, malgré ces échecs patents, notamment pour ceux qui se rappellent de l'affaire de Tarnac, puisque ça a débouché sur un non-lieu, Thierry Fragnoli finit sa carrière à Tahiti, hein, puisqu'il est président du tribunal d'instance de Papeete. Hein, on fait mieux, hein, on fait pire comme récompense de carrière. Et donc ce qu'on reprochait à Zera et à ses camarades, c'était de ne pas avoir de logement fixe, de ne pas avoir de revenus fixes, d'avoir une association culturelle, d'être directrice d'une revue qui était légale en France et qui était légale en Turquie, etc., etc., etc. En fait, de faire de la politique. Et c'est comme si, ce statut de réfugié, c'était, à la limite, sois bienvenu, mais ferme ta gueule.
C'est un peu ça. Moi, j'ai cherché parce que je voulais en savoir plus au niveau juridique par rapport au statut de réfugié. Je voulais savoir pourquoi certaines personnes, d'un seul coup, se retrouvent sans statut alors qu'ils l'avaient. En fait, quand on regarde bien les obligations et responsabilités des réfugiés, on s'aperçoit pourquoi un certain nombre de réfugiés ont des problèmes. Il faut une intégration réussie en France. Le respect des lois, l'apprentissage de la langue française et la participation active à la vie communautaire. Ce sont donc des points comme ça qui sont énoncés. Donc effectivement, si vous ne respectez pas ça, si vous vivez grâce à un journal turque, en langue turque, qui est vendu en France légalement et qui est vendu en Turquie aussi légalement, dont vous êtes la directrice de publication, là, ça passe pas, surtout que ce journal est révolutionnaire, donc. Alors, effectivement, ça, l'intégration, c'est mal barré, c'était mal barré pour elle, hein, c'est clair. Alors, ça veut pas dire que tous les réfugiés en France, quand on est réfugié en France, c'est pour ça qu'il faut fermer sa gueule. D'ailleurs, la plupart du temps, les réfugiés continuent à militer sans problème. Mais le problème, c'est quand on est turc, c'est un peu différent. Parce que la Turquie, c'est quand même autre chose que le Bangladesh, que n'importe quel État. C'est un État important, hein, même si c'est un État qui n'est pas encore dans l'Union européenne. Il n'y est pas dans l'Union européenne, mais... C'est un...
C'est encore mieux, c'est la deuxième armée de l'OTAN.
C'est la deuxième armée de l'OTAN, t'as raison, t'as la deuxième armée de l'OTAN. Donc, bon, hein? c'est vraiment du sérieux, quoi. Et alors, en plus, comme on le sait, il y a des accords dont un a été connu. C'est un accord qui date de 2011,
ouais.
Où, effectivement, il y a eu la signature d'un accord de sécurité entre la France et la Turquie, qui formalisait une coopération opérationnelle de lutte contre le terrorisme, évidemment. Donc, dans ce cas, je crois qu'à cette époque-là, c'était Claude Guéant.
C'est ça.
Qui avait signé pour la France ces accords. Nous étions donc sous Sarkozy.
Hein. Tout à fait. Moi, je peux te citer Claude Guéant qui disait que cet accord allait bien au-delà de ce que la France signe habituellement dans le domaine de la sécurité avec ses autres partenaires. Hein.
Ah, bien sûr, hein, c'est évident. Bon, donc, voilà. Donc, je pense que ça explique les problèmes qu'a cette femme. La fin du statut de réfugié, j'ai regardé le truc officiel, j'ai trouvé un truc là, et on lit la présence du réfugié, enfin on peut donc, le réfugié peut ne plus être réfugié, c'est-à-dire avoir son statut de mi-fin par l'OFPRA, puis ensuite par le CNDA. Si la présence du réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l'État, toujours la même chose, hein, ça fait, je sais pas, 20 ans, 40 ans qu'on raconte qu'est-ce que c'est que la menace grave pour la sûreté de l'État. Nous, ce soir, avec notre émission de l'Égrégore, est-ce qu'on n'atteint pas, est-ce qu'on n'est pas une menace pour la sûreté de l'État?
On aimerait bien, mais ça reste à définir. Mais de toute façon, cette définition, elle est, on va dire, unilatérale. C'est comme la définition du terrorisme. C'est-à-dire que, on le répète, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, elle ne peut condamner que des intentions. C'est-à-dire un projet ou des intentions qui peuvent être formalisées dans le fait, ben, dans l'occurrence, d'avoir une association ou de faire un journal. Et c'est là qu'on voit qu'on est passé notamment à côté de quelque chose à cette époque de ce procès de Zera et ses camarades en 2012. C'est que on a des petites franges de la population comme ça qui ont expérimenté des transformations du droit pénal, qu'en ont pris plein la gueule, et ces transformations du droit pénal, ben, petit à petit, elles irriguent à l'intérieur de tout le droit, et c'est tout le monde. Et par exemple, on voit cette définition du terrorisme qui est en fait quelque chose d'indéfinissable. En termes strictement juridiques, c'est un terme qui est éminemment politique. Eh ben, elle peut être utilisée à U et à Dia, puisque aujourd'hui, relayer un commentaire Facebook peut être considéré comme une apologie du terrorisme, et on en avait déjà parlé ici, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui sont passées devant les juridictions pour apologie du terrorisme. De toute façon, rassurez-vous, on est toujours le terroriste de quelqu'un, hein, que ça soit éco, terrorisme intellectuel, terrorisme ce que vous voulez, ça c'est vraiment une classification qui est très très intéressante. Et ce qui était intéressant lorsqu'on détaillait l'instruction de ce juge Fragnoli et qui était reproché à Zera, c'était le fait que il comprenait pas l'engagement radical, que il comprenait pas qu'il y a des gens qui pouvaient avoir des modes de vie collectifs, semi-collectifs, solidaires. En l'occurrence, il y avait une des personnes qui était agent administrative à la mairie de Melun. et donc qui vivait avec Zera et d'autres femmes et qui mettait en commun. Ses ressources, d'autant plus que Zera était handicapée à la suite de la nutrition forcée qu'elle avait subie lors de sa grève de la faim de 2006. Elle est malade, elle a une maladie cérébrale et neuronale qui s'appelle Waldenström. Pardon pour les médecins qui nous écoutent, ça doit être quelque chose comme ça, et que ben elle faisait ce qu'elle savait faire en Turquie, c'est-à-dire être rédactrice de journal et continuer son activité, et que donc qu'est-ce qui a changé par rapport à 2006 où elle a eu son statut et qui fait qu'elle a une OQTF et qu'elle peut être renvoyée en Turquie? Qu'est-ce qui a changé en Turquie? Rien. Qu'est-ce qui a changé dans ses activités? Rien. Donc,
sauf qu'elle aurait dû se plier.
C'est ça.
Elle aurait dû se plier, comme à chaque fois d'ailleurs, à chaque fois que l'on fait quelque chose de radical, si jamais tu as des problèmes avec la justice, on te demande de t'excuser, on te demande de regretter, on te demande de revenir en arrière, etc. Si tu ne reviens pas en arrière, je crois qu'il y a certains... Comment il s'appelle, notre camarade d'Action Directe
Jean-Marc Rouillant.
Jean-Marc Rouillant, qui l'a très bien décrit.
Laurent Pantier, et même Georges Ibrahim Abdallah. On imagine que s'il était Laurent Pantier et qu'il avait demandé pardon,
il aurait été libéré avant.
Très, très, très, très largement. Alors donc, voilà, Zera et quelques-uns de ses camarades, parce que Zera, elle apparaît au grand jour, mais on l'a dit, hein, ce sont des dizaines de militants kurdes et turcs qui sont concernés, hein, depuis plusieurs années maintenant. Elle tient une tente, toute petite bicoque au niveau du Strasbourg Saint-Denis, à côté de la porte Strasbourg Saint-Denis, là, à Paris, tous les jours, tout le temps, nuit et jour. Elle dort là-bas avec des camarades qui se relaient, et une fois tous les 15 jours, ils marchent jusqu'à l'hôtel de ville pour se tiner. Et c'est assez impressionnant, parce que c'est une toute petite bonne femme qui mesure 1m50 et qui a, malgré son état, on voit elle est affaiblie, elle a un sourire et elle accueille les gens comme les gens qui sont en lutte sont capables de parfois partager la joie qui est la leur de lutter. Et c'est clair que ça t'en met un peu à ta place quand tu ressors de là et que t'as discuté une petite heure avec elle. C'est quand même une histoire assez invraisemblable. T'as qu'une envie, c'est de dire, lâchez-la, quoi, laissez-la tranquille, quoi.
Il y a une marche de soutien, d'ailleurs, qui est
samedi,
prévue.
Ouais.
Le samedi,
on essaiera d'y aller, on se tiendra au courant de toute façon. Pour ceux que ça intéresse, sur les internets, il y a un Instagram, il y aura un article dans Courant Alternatif, en quatrième, il y a des sons qui tournent un peu. C'est un peu en train de déborder le secteur habituel de la communauté turque, tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment dégueulasse, quoi, en fait, hein, on voit bien comment ça sert de marchandage avec la Turquie, en fait, hein. On vraiment pas grand chose à y gagner, quoi.
Tout à fait.
Vois pas trop. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur le statut de réfugié? Non,
non, si ce n'est que c'est de pire en pire.
Ouais.
Ça c'est clair. Que de plus en plus les opposants, quand ils demandent le statut en France, peuvent l'obtenir. Mais ils peuvent aussi de plus en plus se voir supprimer ce statut.
À noter que le statut de Zera a été révoqué par la préfecture à son insu, sans procédure contradictoire ni judiciaire. Ça vous donne un peu les capacités, les pouvoirs du préfet aujourd'hui, qui sont vraiment des petits satrapes, mais qui portent plainte contre des députés, qui, enfin, vraiment, le pouvoir préfectoral est devenu un truc mais d'en faire une sorte de décentralisation-centralisation, quoi. C'est-à-dire que on a l'État à un quart d'heure sur le palier de la porte, comme les toilettes. Bon, alors, on vous tiendra au courant, oui.
Ouais, simplement, je voudrais dire quand même qu'il y a eu une décision judiciaire qui a été prise par le tribunal administratif de Melun.
Ouais.
Qui a été prise donc le 26 juin, c'est assez récent, à la lettre juridictionnelle provisoire.
Ouais.
J'aime bien le terme provisoire.
Bah oui.
C'est l'arrêté du 26 mai 2025 pour lequel le préfet de Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, a été annulé, a donc à l'appui de l'OQTF sur le dos. Le problème, c'est que c'est pas pour ça qu'il lui donne des papiers. C'est qu'on se retrouve effectivement dans une situation où il y a d'autres migrants. Moi, j'en connais un, par exemple, qui, ça fait déjà deux fois, qui passe devant le TA. Le TA décide de demander à ce que la préfecture de la Marne, mais là, c'est pas la Marne, c'est du Val-de-Marne, lui donne un statut, lui donne une carte de séjour, tout simplement, et il n'y a pas de réponse.
Non.
Il n'y a pas de réponse. Que faire? Ça, on ne sait pas. Il y a des choses qui se font, mais c'est toujours pareil. Ça va durer. Faut faire telle procédure juridique, etc.
Et donc là, elle a juste un titre provisoire de 3 mois pour renouveler tous les 3 mois, pardon, en attendant que la procédure judiciaire et le contradictoire se fassent, puisque ce qui était constaté là, c'était vraiment la décision unilatérale du préfet. Mais Zéra, elle veut pas ça. Elle se considère, vous l'avez entendu, comme une militante politique. Et donc, elle veut un statut de réfugié politique. Elle a une cohérence, et c'est cette cohérence qui se fracasse, qui n'est incompréhensible par l'administration française, et en l'occurrence, son pouvoir préfectoral. On suivra ça, parce qu'il y en a un autre. Hein. Il y a Ali aussi, Seyip, qui est dans le même cas que elle, et qui l'a rejointe dans sa grève de la faim, et on suivra le truc. Voilà, et si le truc si le cas vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner à gauche et à gauche pour avoir un peu plus de détails sur Zéra. Alors, on va maintenant, il nous reste 30 minutes, on aura juste le temps d'écouter, ça n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, une intervention de Philippe Pujol qui va nous parler du trafic de stupéfiants et du trafic de drogue à Marseille. Vous savez que ce week-end, il y avait un rassemblement pour soutenir la famille Kessassi. Donc la famille Kessassi est une famille dont les enfants se sont mobilisés contre le trafic de stupéfiants, notamment Amine, qui est un militant associatif des quartiers nord et qui est particulièrement bien connu. Et il y a une dizaine de jours, un des frères d'Amine a été assassiné. Plus que largement en relation avec l'activisme de son frère. C'est déjà la deuxième fois qu'un membre de sa famille est tué. Il a eu un premier petit frère qui a été assassiné dans des conditions assez troubles, mais Amine est persuadé ça relève aussi de l'intimidation. Et c'est quelque chose qui existe et qui a existé dans les structures mafieuses où pour mettre la pression ou parce que l'individu qu'on cherche à éliminer est trop protégé ou pour mettre la pression et d'une manière générale pour imposer sa loi et son pouvoir, on assassine des proches pour dire que personne n'est à l'abri de la potentielle menace.
C'est ce qu'on appelle foutre la trouille, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau en France. Ça arrive très rarement, ou alors c'était vraiment, pour le coup, des clans mafieux qui pouvaient se faire la guerre entre eux en tapant sur les proches, quoique on n'a pas eu souvent ça en France. Et malheureusement, la réponse du pouvoir qu'on a à part la compassion de bon aloi, c'est toujours ce baratin et cet arsenal législatif et pénitentiaire sur le narcotrafic, qui est quelque chose qui vient d'apparaître depuis quelques années, un concept qui d'un côté justifierait la restriction de liberté, mais alors complètement dingue, c'est-à-dire que on propose d'avoir des instructions judiciaires où les avocats ne pourraient pas avoir accès au dossier judiciaire, pour éviter, sous prétexte d'éviter d'avoir la possibilité de plaider des vices de procédure. De l'autre, des restrictions des libertés individuelles et humaines assez hallucinantes, avec l'ouverture de blocs de béton, en fait, de mouroirs, où on enfermerait les gens en isolement total. C'est les fameux super prisons pénitentiaires, parce que il y a des super délinquants qui ont des super pouvoirs en utilisant leur téléphone, leur machin, pour commanditer des trucs et des bidules. Alors que le super pouvoir, si on en a un, qu'ils ont, ça s'appelle le pognon. Et le pognon, ça permet d'acheter tout, que ça soit des juges, des flics, des agents pénitentiaires, des assassins, des ce que tu veux, des politiques, etc., etc. Ça, évidemment, on n'en parle pas. Et donc on a un espèce de sujet là qui s'est construit, narcotrafic, on a parlé de mexicanisation aussi, alors que en fait si on regarde ça avec des éléments matériels et en projetant le problème sur l'espace et sur le temps, donc en faisant une analyse rationnelle, eh ben on s'aperçoit qu'on peut tout à fait trouver des solutions qui soient pas des solutions restrictives, mais qui sont soit des solutions sociales, puisque le trafic de drogue, c'est un des éléments de l'économie capitaliste, et c'est un élément qui entre en résonance avec l'organisation de la société telle qu'on la vit. C'est-à-dire, tel type de société va donner tel type d'illégalité, tel type de comportement va aussi engendrer tel autre type de comportement. Puisque pour avoir du narcotrafic, il faut de la clientèle, donc des gens qui ont un besoin de consommer de la drogue, donc qui se sentent pas bien, parce qu'une société sans drogue, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il faut une politique de santé publique, parce que les gens se sentent pas bien, ils se réfugient vers des produits qui sont plus accessibles ou qui sont accessibles sans ordonnance ou sans prise en charge médicale. Il faut des espaces où les gens qui se sentent pas bien ou qui ont un besoin de consommer des anxiolytiques, de consommer des psychotropes, de consommer des stupéfiants, ils puissent s'adresser. Il faut des outils pour avoir de la force et faire de l'illégalisme, des armes, donc des armes en circulation, des armes qui soient à marché, et il faut également des structures hiérarchiques, des structures bancaires, des structures administratives, etc., etc., etc. Mais Philippe, c'est son travail depuis 25 ans en tant que journaliste sur les quartiers nord de Marseille, il en parle beaucoup mieux que moi, on va s'écouter le début, et puis si on estime qu'on n'a pas assez compris ce qui est dit dedans, on le repassera la semaine prochaine, on verra bien. Camille, est-ce que tu peux essayer d'envoyer le son ?
La feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive, des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu, tant pis le diable pour...
Salut Philippe.
Salut.
Parce que t'as sorti plusieurs livres sur ce que t'appelles le monstre. Donc le monstre, c'est ce système du banditisme de la drogue. Mais avant d'en parler, on aimerait bien savoir d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à étudier ce fameux monstre.
Alors moi, je suis à la base un journaliste marseillais. Aujourd'hui, je suis devenu écrivain. Je fais des films sur le sujet de la drogue, mais pas que. Mais souvent, on me connaît pour ça. Mais c'est plutôt des sujets de société en général. L'extrême droite est un sujet que j'ai pu aborder aussi. En gros, tout ce qui est fait de société est plutôt lié au milieu populaire et au marché que ça représente justement pour les uns les autres. Et j'ai grandi dans un quartier pauvre de Marseille, même si J'ai pas le nom et le faciès des pauvres d'aujourd'hui, hein, mais je suis les pauvres d'hier, c'est-à-dire plutôt d'origine corse. Je suis venu sur les stups en tant que journaliste, mais la réalité, c'est que j'ai toujours baigné quelque part dans cet environnement de stups, c'est-à-dire c'est les quartiers, le quartier d'où je viens, c'est la French Connection. Il y avait des voyous comme le Belge qui vient de ce quartier-là, qui était un grand de la French Connection, Tony Langui, Antoine Cossu qui vient de là, etc., et plein d'autres noms. Donc j'ai toujours eu cet environnement-là. Mais j'ai jamais su que j'en ferais mon métier un jour ou un sujet, parce que moi j'ai eu plein de métiers avant de devenir journaliste. J'ai travaillé 11 ans à la Marseillaise comme fait diversier, des homicides, des meurtres, des embrouilles, quoi, d'une manière générale. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans les réseaux, etc. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. En 2014, j'ai eu le prix Albert Londres sur une série qui s'appelait Quartier Shit. Ce que j'ai appelé le monstre, mon premier livre s'appelant La Fabrique du Monstre. Pour moi, le monstre, c'est le nom que je donne à toutes les malfaçons de notre République. Clientélisme, corruption... choix économiques faits par des chefs d'entreprise qui sont contre l'intérêt public, choix politiques qui sont contre l'intérêt public, et aussi le public lui-même qui, de temps en temps, a tendance un petit peu à penser qu'à lui et à pas hésiter à être le charbon du clientélisme, c'est-à-dire qui demande sans arrêt un poste, un appartement, une place. Donc ce monstre-là, un de ses symptômes, c'est le stup. Pour moi, le trafic de stup n'est que le symptôme d'un problème de société. Et c'est non pas, parce que l'air du temps te raconte que le trafic de stup, c'est une population issue d'immigration qui, de l'intérieur, s'attaque au pays par le stup. Ça, c'est le storytelling. C'est pour ça qu'on a appelé ça les narcotrafics. Je suis contre ce terme, moi. J'utilise pas le terme de narcotrafic parce qu'il est connoté à la série Narco, il y a Pablo Escobar, c'est très bien tout ça, hein, en tant que spectateur, puis ça a vraiment existé, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf qu'en France, il n'y a pas de narco dans ce sens-là. Et quand on parle de narcotrafic, on voit des Pablo Escobar penser. Et aujourd'hui, on te dit que c'est la DZ Mafia, que c'est tous ces gens-là. C'est bien plus compliqué que ça et c'est pas du tout le même modèle. Je dis pas que c'est pas grave. Je dis pas qu'il y a rien, je dis pas qu'il y a pas de sous, c'est pas vrai. Il y a plein de sous, c'est grave. Mais en fait, c'est plus grave que ce qui est dénoncé. Ce qu'on dit d'habitude, c'est des méchants viennent pour bouffer la France. Et moi, je dis qu'une France malade crée des problèmes.
Qui a l'origine de l'origine à importer le trafic? C'est qui ceux qui ont saisi les premières opportunités pour créer un trafic de drogue en France?
Alors, les trafics de drogue est ancien, mais je vais faire l'histoire récente.
Ouais.
Une récente, c'est-à-dire depuis 40 ans, 50 ans. Si je prends le cannabis. Au début, le cannabis, quand on arrive en Algérie, nous, Français, donc au fin 19e siècle, certaines personnes vont être dénoncées comme des sauvages à cause du cannabis. Mais en fait, l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des asiles de fous. Aujourd'hui, on dirait de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Bah, avant, on appelait ça des fous. Et ils étaient donc dans des lieux des asiles pas très clean, vous imaginez, 19e siècle. Quand les Français sont arrivés là-bas, à la conquête de ce pays-là, une conquête armée, méchante, eh bien, on a profité du fait que pour endormir ces gens, on leur filait beaucoup de cannabis, de kiff. Donc, ils fumaient des quantités astronomiques de kiff. Et en même temps, ils prenaient de l'alcool. Et quand certains d'entre eux, sur 10 ans, quand il y avait quelques faits divers d'un gars, un fada qui égorgeait quelqu'un, ce qui arrivait, on transformait ça en disant, vous voyez, ces sauvages, pleins de cannabis, voilà ce qu'ils font. C'est au moment de la conquête de l'Algérie qu'on a commencé à transformer le kiff, le cannabis, comme responsable de la folie de ces sauvages algériens. C'est pour ça que la France a encore aujourd'hui une posture morale et répressive sur ça, là où d'autres pays qui n'ont pas fait les mêmes, qui n'avaient pas les mêmes colonies ou pas de colonies du tout, ne sont pas allés dans la même direction. Il y a déjà une posture morale de départ qui est celle-là. Après, sur la drogue en général, je parlais de la French Connection, qui est mon quartier de Saint-Mauran a été un des lieux de la French, où il y a eu des gros, mais il y en a eu plusieurs. Hein. Donc la French, je rappelle ce que c'est pour faire très court, de l'héroïne était faite à Marseille et vendue aux États-Unis. Tout ça faisait appel à énormément de réseaux différents. Pour faire très court, les Libanais, avec les Arméniens très présents à Marseille, parce qu'en fait, ils avaient fui le génocide en 1918, ils sont arrivés massivement à Marseille. Donc ces Arméniens-là pouvaient rentrer en contact avec les Libanais pour ramener l'opium base de la plaine de la Beka au Liban. L'opium base arrivait à Marseille, où il y avait, je vais y venir après, des chimistes qui fabriquaient ça. Les Corses, qui parlent corse et italien, enfin le corse étant proche de l'italien, travaillaient avec la Cosa Nostra, les Italiens, qui eux vendaient aux États-Unis dans les rues du Bronx, de Harlem.
Oui, il y a une répartition mondiale de... Comment dire, dans la chaîne de production de la drogue jusqu'à l'écoulement de la marchandise.
À cette époque-là, chacun a son segment. Et c'est ça qu'on va appeler la French Connection. Parce que la drogue est faite à Marseille. Mais pourquoi elle est faite à Marseille? Là, on repart aux colonies. On repart à l'histoire coloniale. 45, fin de la Deuxième Guerre mondiale. On est en guerre en Indochine. Ho Chi Minh fait du trafic d'héroïne pour pouvoir financer sa guerre. Lui, c'est plutôt un proche des soviétiques. Et nous, on a besoin de contrer Ho Chi Minh. y compris sur le côté stup. Et donc, on va utiliser des bandits qui vont fabriquer de l'héroïne pour faire un trafic d'héroïne en Indochine qui va contrer celui d'Hoshimine, c'est-à-dire lui couper le marché. Ça n'a pas marché, mais en tout cas, on a eu des chimistes. C'est sachant que les Français ont aussi fait, utilisé l'opium qu'on donnait à nos soldats. Il y a eu plusieurs drogues pour les soldats aussi, parce que quand tu es traumatisé, des fois, il faut t'en remettre. On pensait que la drogue allait servir. Je ne suis pas certain que c'était le cas, mais on pensait ça en tout cas. Donc, il y a eu plein de choses par rapport à ça. Beaucoup de cette drogue-là a servi à financer les partis politiques. On ne va pas dire que c'était massivement en finance, il ne faut pas s'enflammer non plus, mais il y a des soupçons forts. Pasqua était le responsable des commerciaux Ricard États-Unis. Il y a eu beaucoup de voitures farcies d'héroïne qui, en partant vers les États-Unis, qui ont été saisies par les Américains. Ce n'était pas rare. L'échange, c'était souvent on finance les partis politiques, parce que je pense que tous les gros partis de l'époque avaient leur dealer à eux. Moi, je connais qui était avec le RPR, mais je pense que les socialos avaient les leurs, etc. L'UDF avait les leurs. En échange, on essaie de faire que la loi reste ce qu'ils appelaient les 5 ans. C'est-à-dire que tu tombes pour stup, tu fais 5 ans de tôle. Et un gros voyou est prêt à faire 5 ans de tôle. C'est-à-dire que si t'es riche à millions, bon, mais 5 ans, c'est le tarif, c'est comme ça. Ils savent qu'en se tenant bien, ils font 3 ans. Comme ils ont beaucoup de sous, ils ont une prison pas trop désagréable, ils toléraient ça. Et c'est au moment où ils sont passés aux 10 ans, sous la pression des Américains, et aux 20 ans, que là, les voyous ont lâché les politiques en disant « Là, vous nous avez niqué, on devait être protégés, on l'est pas. » Et là, ça s'est passé à autre chose. Et les partis politiques sont plus mis sur le jeu et moins sur la drogue. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti politique financé par la drogue, c'est pas vrai. Ou alors peut-être sporadiquement parlant, un truc hyper local, mais de façon organisée, non.
Donc du coup, à l'époque, on était vraiment le centre de production de la drogue qui était exportée voilà, aux États-Unis. Voilà. Et comment on est passé de cette situation-là à un pays dans lequel, si j'ai bien compris, la drogue est importée et, voilà. Et on se retrouve en fait dans la situation des États-Unis des années 70-80. Comment s'est fait la bascule en fait?
Moi, c'est ce que j'appelle la French Disconnection. Alors, je sais qu'en anglais, on dit disconnection. En fait, c'est l'inversion de la situation. La French Connection va mourir. Le que la French Connection, c'est 95, un réseau qui s'appelait Océan, Topaz. C'est deux réseaux d'héroïne. C'est les derniers qui sont de la French. Mais vraiment, on est déjà à plus grand-chose. Dès 85, 86, c'est vraiment presque plus. On est passé à la loi des 20 ans. Il y a plus grand monde qui dit « moi, je vais risquer 20 ans ». Surtout qu'il y a les Américains ont mis des moyens, ils ont des morts. Hein. Ils ont des centaines de milliers de morts par l'héroïne. Hein. Donc, ils mettent des moyens considérables pour empêcher ça. Donc, la bascule French Connection, French Disconnection, elle se fait lentement. Le kiff qui va devenir le cannabis, qui va devenir la beuh et le chichon, il a toujours été présent dans une ville comme Marseille. Puisque en fait, il était toléré. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une ville qui est quasi dans une décriminalisation. Aujourd'hui, fumer à Marseille, tu crains rien. Hein. Ça permet qu'il n'y ait pas d'alcool à la place. Hein. Et l'alcool fait beaucoup plus de ravages sur la voie publique. Donc, quelque part, c'est plutôt intelligent de la part des autorités de ce petit laisser-faire. Hein. C'est pas du tout du laxisme, c'est de l'intelligence. Mais après, par contre, dans le réseau de la France, jusque-là, c'est un tabou. Hein. Le cannabis, c'est pas bien. Le vin rouge, oui, mais le cannabis, non. Là aussi, je n'ai pas de jugement de valeur. Le vin rouge, c'est aussi un décontractant. Hein. Quand tu as une vie compliquée, ça peut aider. Hein. Mais bon, pour la santé publique, ce n'est pas terrible. Donc, de la consommation, on a toujours eu. Mais petit à petit, quand l'héroïne va être remplacée par le Subutex, c'est-à-dire qu'il va y avoir la méthadone et le Subutex, qui va faire qu'enfin, on va vaincre l'héroïne. L'héroïne, ça tue les gens. Overdose, sida, toutes les années 80, une partie des années 90, ça va enfin s'arrêter, ça prend du temps quand même, ça se fait pas en une année, il y a une substitution. Il faut bien que d'une drogue, on passe à une autre, puisqu'il y a toujours un besoin psychologique. On est passé à une autre drogue dans un premier temps, le cannabis. Le cannabis était déjà présent. Donc après arrive Schengen, les frontières s'ouvrent. Et c'est là que se structurent les premiers réseaux. Et là, si je prends l'exemple de Marseille, je connais pas l'exemple parisien, mais il y a l'équivalent. Il y a un bandit issu de la French, qui s'appelle Farid Berama. Et donc, Farid Berama va prendre l'empire de la drogue du sud de la France, particulièrement de Marseille. Il n'a pas tout, mais presque. Et là, c'est l'époque où c'est pyramidal. Farid fait les importations, fait le blanchiment d'argent. Il a une armée en dessous, des lieutenants, des adjoints, des soldats, et tout ça va vendre dans la plupart des cités du pourtour des temps de Berre. Bon, lui se fait tuer en 2006 sur une histoire de machine à sous. Et là, les lieutenants, ils vont s'entretuer. De 2006 à grosso modo 2010. Les lieutenants se rendent compte qu'en fait, le modèle, il ne marchera plus. On n'est plus dans un pyramidal, tout ça. On est dans ce que j'appelle, moi, un modèle ubérisé. On n'a plus une chaîne comme avant. On a plein d'auto-entrepreneurs. Et après, ces auto-entrepreneurs ou ces micro-entreprises vont se bouffer les unes les autres. C'est ça, la concurrence, elle est morte. Mais finalement, c'est plus une structure pyramidale, plus du tout. Et c'est pas du tout une structure organisée dans le sens crime organisé. Mais à la fin, ça s'organise de façon capitaliste, c'est-à-dire totalement la main visible, quoi. C'est-à-dire que les OPA se font par meurtre. Quand t'es pas compétent, tu disparais, un autre vient. Il y a une organisation qui se fait, mais il y a pas de personne qui la pense. Il y a pas Farid Berama qui dit on va faire ci, on va faire là.
Qui importe la drogue en France?
Déjà, Farid n'était pas seul à faire ça. Hein. Il y avait déjà du monde, mais c'est lui qui centralisait. Quand il était aux affaires de la drogue 2000 et 2001, il y a eu que un mort par règlement de compte. Ça veut pas dire qu'il y avait pas de mentise. Ça veut dire qu'il y avait pas de concurrence. Le règlement de compte n'est l'indicateur que de la concurrence, de rien d'autre. Quand il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de concurrence. Quand il n'y a pas beaucoup de morts, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ça ne veut pas dire que le banditisme est plus beau, plus bas, plus il y a plus de sous, moins de sous. Non, ça n'a aucun sens. C'est il y a beaucoup de morts, il y a des gens qui s'affrontent. C'est tout. Et donc là, les importations, elles se font comment? Ben maintenant, on a fragmenté les métiers. Il va y avoir les producteurs, j'ai dit que c'était tout à l'heure, hein, le Maroc, l'Amérique du Sud. Ensuite, il va y avoir le semi-grossiste, celui qui reçoit la tonne et qui va la diviser en... Pour les maths, je vais choisir 3 fois 333 kilos qui va partir dans 3 endroits différents. Et c'est eux qui vont vendre à ceux qui sont les vendeurs de terrain. Et donc ceux-là, ils vont acheter au semi-grossiste. Et après, à partir du confinement, à partir de l'avènement des réseaux sociaux, quand ils commencent à être sécurisés, tout ça, quand ça commence à bien marcher, il va y avoir la naissance de ce que moi j'appelle les franchises, les marques. C'est comme le McDo, tout des fast-food, Burger King, le Quick et tout.
Ouais, bien sûr.
Ben, tout cela, déjà, les employés peuvent passer d'une boîte à une autre sans problème, c'est pareil dans les stups. Mais ceux-là, en fait, ils achètent des franchises. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un réseau qui se monte à Poitiers. C'est le cas, hein, c'est arrivé. Ce réseau à Poitiers, ben, il a besoin de se battre contre le réseau d'en face puisqu'ils sont en guerre de territoire. Ils appellent les Marseillais en disant « on voulait pas venir faire un peu peur aux mecs, là ». Les Marseillais montent, hein, si on les paye. Ils montent, ils font peur. Soit il y a des morts, soit il n'y a pas de morts, mais en tout cas, ils récupèrent le réseau. Ils laissent la marque. Vous êtes des aides maintenant. Vous nous versez un pourcentage que vous gagnez, nous on repart. Il n'y a pas de Marseillais. C'est ceux de Poitiers qui étaient là, mais ils ont la marque des aides mafia. Je dirais l'entreprise. T'as un chef de tout ça qui gère, mais qui gère beaucoup la concurrence, un peu la police. Pas très grave. Et on essaie de corrompre un peu deux, trois flics de temps en temps. Ça marche pas. Tu touches rarement un juge. Alors attention, il commence à y avoir maintenant une partie du banditisme qui est montée suffisamment haut pour atteindre ça. C'est en train de venir. Mais on n'y est pas de façon structurelle. Il va y avoir un cas par-ci, un cas par-là. Il faut rester très vigilant, faire attention. Mais on n'y est pas encore. Mais ça veut pas dire qu'on y sera jamais. Par contre, oui, on a déjà un flic par-ci, un flic par-là qui va donner des infos. Des fois, il sait même pas quoi. Il sait même pas pourquoi il donne une info et il a une voiture. Mais il va pas avoir une Ferrari, il va avoir une Clio. Il y a quand même des compétences à avoir à la fois de public relations et de comptabilité et aussi de stratégie, j'ai presque envie de dire politique au sein de ton propre groupe. C'est-à-dire, telle franchise adverse est en train de monter là, qu'est-ce que je fais? Si on les attaque, c'est une guerre. Si c'est une guerre, c'est coûteux. Est-ce qu'on passe par de la négociation? Bon, donc, il y a une certaine intelligence à ça. Ensuite, dessous, il va y avoir les chefs de plan. Chef de plan, c'est concret. Hein. C'est au quartier, je gère les entrées-sorties, c'est du commerce. Le seul but, c'est que le charbonneur, c'est comme ça qu'on l'appelle à Marseille, je sais pas comment ça s'appelle ailleurs, le charbonneur, celui qui a la sacoche, celui qui a le produit et l'argent, rarement les deux en même temps, ça c'est vraiment les incompétents. La plupart du temps, il y a un mec qui a l'argent, un mec qui a le produit. Quand tu te fais choper par la police, si tu as que de l'argent, tu dis « bah mon foie, je viens d'acheter une moto ». Je viens de vendre une moto et c'est les sous de la moto. Personne ne te croit, mais ça peut marcher. Si tu as 10 barrettes, tu dis « ah ouais, je suis un gros fumeur, moi ». Puis après, c'est pour mes collègues un peu. Tu peux faire passer pour un mec qui dépanne. Ça peut marcher aussi. Par contre, si t'as les deux, si t'as tes euros et tes barrettes, là, c'est... Donc, généralement, il faut attention. Les petits réseaux, ils y pensent même pas. Ils sont les deux en même temps. Et donc, ça, c'est le charbonneur. Le seul but pour un chouf, seul but, il y a une seule fonction, c'est de faire perdre du temps à la police ou de faire gagner du temps au charbonneur pour qu'il aille se planquer dans la planque. C'est tout. C'est le seul but. Donc, t'as tes guetteurs à moitié shootés, parce qu'ils sont défoncés, ils sont là, et d'un seul coup, ils supposent que c'est la police, ils hurlent, l'autre, il part en courant, il se met soit dans un appartement, soit dans une cabine, à une planque, et là, si on ne l'a pas vu rentrer là, la police ne peut pas le trouver. On n'a pas le droit d'ouvrir des appartements, il faut voir rentrer. Et donc, c'est le seul but. Grosso modo, il faut gagner 30 secondes. C'est ça que ça veut dire. C'est généralement, en charbonneur, on prend un mec qui cavale. Mais le problème, c'est que tout ça, ça fait du monde à faire travailler. Ça fait des sous. En fait, il y a beaucoup de sous au départ, mais si tu payes tout le monde, si tu payes bien tout le monde, comme c'est annoncé dans les médias, 200 euros par jour, 100 euros pour un guetteur. Mais vous les avez vus, les guetteurs? Vous avez vu la gueule qu'ils ont? Vous avez vu physiquement comment ils sont? Ils sont pratiquement tous en voie de clochardisation. sont sales, ils sont mal fringués, ils ont la gueule défoncée, ils ont des cicatrices de partout, ils sont shootés, ils ont des yeux défoncés. C'est nécessaire. C'est pas un hasard qu'ils soient comme ça. C'est leur métier qui les rend comme ça et on les a choisis parce qu'ils sont comme ça. Et en fait, ils sont cassés par la vie déjà, tout jeunes. L'argent, ils ne le mettent pas du tout puisqu'ils n'en ont pas. En fait, on organise leur dette. Le but du jeu, c'est qu'ils aient pas de sous ou qu'ils en aient une période de leur vie, puis après qu'ils en aient plus, puis après qu'ils doivent de l'argent et qu'ils disent gratuit. Et en fait, le but du jeu, c'est que ces mecs-là soient payés le moins possible parce que il n'y a pas suffisamment de sous pour payer bien tout le monde. Il y a des chiffres qui sont les chiffres du ministère de l'Intérieur de Darmanin. C'était 3,5 milliards de chiffre d'affaires à l'échelle française dans les stupes, 200 000 personnes qui travaillent dans les stupes. Chiffre qui me semble tout à fait cohérent. Quand on fait des produits en croix dans tous les sens, on obtient que si tout le monde est payé pareil, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, hein, on va dire que ce sont des marxistes, trotskistes, et que ils sont pour la redistribution de tout le pognon, ils touchent tous 1200 euros par mois, moins que le SMIC. La réalité, c'est que les chefs, ils touchent plutôt plusieurs millions d'euros, et qu'en dessous, ben, c'est de moins en moins. Et donc, c'est une courbe comme ça. Il y en a qui gagnent beaucoup, puis très rapidement, il y en a qui gagnent rien. Puis la courbe, elle va même sous zéro, et après, elle est dans le négatif. Et en fait, il y a une armée de jeunes, qui sont ceux qu'on voit, qui fanfaronnent, floutés à la télé, « Ouais, moi, je suis blindé, tu es blindé que dalle, tu es blindé en prison. Ouais, tu passes ta vie en prison, c'est tout ce que tu fais. » Ils sont blindés rien du tout. Ils ont peut-être une courte période de leur vie où ils vont louer une voiture et donner l'impression sur Instagram ou sur TikTok, c'est des cadeaux. Ça, ça fait partie du jeu, justement. Le peu d'argent que tu as, tu la dépenses pour faire croire que tu es quelqu'un. Puisqu'en fait, c'est une pression sociale forte. La réalité, c'est qu'on organise ta dette. Et il y a plein de méthodes pour ça. C'est long, hein, je ne vais pas te les raconter, mais la base, c'est une voiture de police est rentrée. Ça arrive tous les jours dans toutes les cités trans, puisqu'il n'y a pas de lieu en France où la police ne rentre pas. C'est juste qu'elle n'y reste pas. Elle n'a pas d'intérêt. Elle s'en fout des quartiers, la police. Eh bien, elle fait ce qu'elle a à faire, elle se casse. La police rentre. Ça crie dans tous les sens. Et là, si le guetteur, si le chef de plan, ce jour-là, il a envie de mettre la misère, de mettre à l'amende, pour utiliser leur terme, les jeunes, il va leur dire, les gars, à cause de vous, on a failli se faire choper, je vous paye pas aujourd'hui. Et si tu rebelles, j'en prends plein la gueule. S'il y a une saisie, ça arrive tous les jours. Il y a des saisies en permanence. Vous voyez, les journaux, ils sont toujours en train de se vanter, 800 euros par ci, 1000 euros par là, tout ça. Bon. Mais à chaque fois, on va demander au guetteur, faut rembourser, les gars. S'il y a 10 guetteurs et qu'il y a 10 000 euros qui a été saisi, ça fait 1000 euros chacun. Donc déjà, tu vas dealer gratuit pour 1000 euros chacun. Si le chef de plan il rentre en prison, il va falloir l'aider. Bon, en fait, je suis même pas sûr qu'on l'aide vraiment. On fait croire. Faut faire une cagnotte. On t'impose la cagnotte. On te propose pas. Tu vois, c'est pas l'anniversaire des copains où tu fais semblant de mettre, tu mets un euro, tu fais masquer. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas le truc mesquin. Là, tu mets les sous, quoi. Il y a toutes ces méthodes-là. Il y en a d'autres. On va prêter un scooter à un minot. Vous savez, dans les minots, les gamins dans les quartiers, leur délire, c'est d'être sur des roues arrière. C'est vraiment le truc. Je suis quelqu'un, quoi. Je suis pas rien, quoi. J'ai le zgeg comme ça en permanence. Je suis roue arrière tout le temps, tu vois. Mais en fait, on te prête le truc. Donc, tu as l'impression que tu es dans un clip des gros rappeurs. Quand tu rends le scooter, on te dit, oh, tu as mis tes empreintes sur le scooter maintenant. On va aller faire un braquage. Ah non, non, non. Eh ben, alors, tu vas te geler gratuit. Et voilà. Des trucs tout bêtes. Et on multiplie, moi. Il y a ce que je connais, puis il y a tout ce que je connais pas. Donc, il y a une multitude de méthodes. En fait, ils ont ça en tête sur comment faire que les mecs disent gratuit, voire qu'ils doivent des sous. Après, on passe à l'endettement. Non, le gratuit, c'est une première étape. Après, l'endettement. Quand tu es déjà un peu endetté, tu dois 1000 euros. Il y a eu une saisie. On te dit, bon, écoute-moi, on va te donner un kilo de shit. Grosso modo, je sais pas, 10 000 euros à peu près. Tu le vends où tu veux. Tu nous rembourses ce que tu nous dois. Tu nous rembourses le kilo de shit comptant et tu te gardes à la marge s'il y en a une. Et donc, le mec, le minot, il se dit, ils sont tous prétentieux, ils sont tous persuadés qu'eux, ils se feront pas voir. Il part avec son kilo. Il y a deux solutions. Soit le réseau qui t'a prêté le kilo, ils ont payé un mec qui, à peine tu fais 10 mètres, te braque, te vole ton kilo, et là, d'un seul coup, tu dois les 1000 euros plus les 10 000 euros du kilo. En plus, tu t'es fait casser la bouche. Soit tu vas le vendre quelque part, mais vendre un kilo de shit. Il faut trouver l'endroit où le vendre. Il faut avoir des numéros de téléphone, il faut avoir des clients, il faut avoir un fichier clientèle. Imaginez, vous êtes un petit minot de 18-19 ans, endetté, couillon de quartier, plein de shit. Tu vas pas aller à Paris offrir, ça va pas le faire. Hein. Il va falloir avoir un moment, un vrai fichier. Le fichier, soit tu vas le voler à quelqu'un, soit tu vas le braquer à quelqu'un. Enfin bref, c'est pas possible. La réalité, c'est que passer à Ubersheet, c'est compliqué. Le marché est déjà pris. Donc en fait, tu vas vendre ça devant une fac, là où ça consomme, devant une entreprise. Une entreprise compliquée, où les mecs le soir, ils ont besoin du bambou pour s'endormir. Tu vas choisir l'entreprise où on fabrique des pneus, un truc comme ça. Ouais, mais il y a déjà un réseau qui est en place. Tu fais quoi, toi? Avec ton petit kilo, tu pars à la guerre. Et c'est là qu'il commence à y avoir des affrontements. Alors, il y a Après, il y a les lieux secondaires. On va se mettre un lieu de passage près d'une gare. On a remarqué que ça passe beaucoup et là, on peut vendre un peu, on peut essayer. Et oui, mais tu as un autre mec qui a le même problème que toi, qui a son kilo, qui est là. Et donc, tu as deux minots qui ont chacun la même embrouille, qui jouent leur vie, qui sont prêts à arracher la carotide de l'autre avec les dents pour pouvoir survivre. Et c'est là qu'on a des trucs horribles, des coups de couteau, des trucs. C'est là que, en fait, c'est ce qu'il faut répéter, c'est que le réseau de stup, c'est ça, en fait. C'est quand on part de rien, on finira comme ça.
Et du coup, tu nous as expliqué comment, en fait, le système des réseaux de stup, en fait, ils maintiennent les jeunes dans cette dépendance-là, etc. Mais en fait, t'expliquais aussi, je crois, c'est dans ton dernier livre, que, en fait, depuis le Covid, il y a eu une sorte d'afflux et qui est un peu, comment dire, qui est ininterrompu. Ce qui fait qu'en fait, il y a des jeunes qui tombent au bout de deux mois et en fait, ils sont quasiment immédiatement remplacés. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que depuis le Covid, il y a cet afflux en fait de jeunes vers les réseaux?
En fait, le but du jeu dans ce système-là, c'est de choisir des personnes vulnérables que tu vas escroquer. Je parle toujours du queue de traîne, l'armée exploitable nécessaire. Finalement, comme dans le monde légal, il nous faut nous ouvriers qu'on va exploiter, qu'on va endetter. Alors dans le monde légal, on les endette par rapport aux voitures et au prêt à la consommation. Là, on les endette, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, on est dans le même système. On a poussé le capitalisme un peu plus loin, on a mis les curseurs un peu plus loin, un peu plus méchant, un peu plus dur. Mais c'est la même chose. Donc cette armée-là, il faut les recruter. C'est les vulnérables. Il faut une vulnérabilité. Il y a plein de vulnérabilités différentes, mais l'une des premières des vulnérabilités, c'est la jeunesse. Quand tu as 14-15 ans, tu veux exister. Tu ne te connais pas et tu veux être quelqu'un. Et donc... il y a une culture du shit aujourd'hui, une culture de ce que moi j'appelle le Kalashnikov Dream, c'est-à-dire le rêve de l'argent facile. Alors, il n'y a pas d'argent facile, ça n'existe pas. Et ça, tout ça, ça a une action sur des gamins qui vont se dire, attends, moi je vais, pour devant, je vais aller voir le prof d'anglais insupportable, là, pff, non, c'est bon, je vais au réseau, je vais être tranquille. Donc, il faut sélectionner des gens malléables. Et les gens malléables, c'est 14 ans. Plus jeune, en dessous de 14 ans, t'es malléable, mais t'es pas compétent. Ceux qui ont des enfants ou qui se rappellent comme ils étaient à 10, 12 ans, 11 ans, franchement, rester à se rappeler 10 plaques d'immatriculation, les visages, en restant à un même poste et avec le risque de se faire casser la bouche, non. Les petits ont plutôt tendance à faire des roulades, à partir en courant, à mettre la misère à quelqu'un qui passe. Voilà, ils sont plutôt instables. Il va y avoir quelques rares cas de minots qui, à 13 ans, sont compétents, mais si je fais une courbe là aussi, ça va être une courbe de gosse. Tu vas avoir très peu de gens à 12 ans. Le plein 14, 15, 16, 17 est très peu derrière. Enfin, je veux dire pour ceux qui rentrent. C'est-à-dire, si tu n'es pas rentré dans les stups avant, vers 18, 19 ans, tu rentres plus. Parce que là, t'es compétent, mais t'es moins malléable. Par contre, si t'es déjà rentré, là, tu vas probablement y rester. Donc, l'âge de rentrée dans les stups, c'est 14, 15, 16. C'est par là. La quatrième, troisième. 98% des jeunes ne tomberont pas dans les réseaux, ne se feront pas avoir. Et finalement, ceux qui tombent, ceux qui nous intéressent, ben, c'est les vulnérables. Ils sont pas très nombreux. Après, à la masse d'une ville comme Marseille, ça fait 20 000 minots. Il y a 200 et quelques mille gamins à Marseille. Et il y en a 20 000 qui vont faire un passage dans les stups. À l'échelle française, ça doit être la même proportion, grosso modo. Et donc, c'est les plus vulnérables, ceux qui ont des problèmes psy. Psy dans le sens névrose, hein, pas forcément des fadas. Hein. Des problèmes psy, des problèmes personnels, enfants battus, ceux qui ont vraiment besoin d'argent.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1, sur cette émission réalisée.
Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive.
La radio qui fait grrrr. Running, running, running, running, running, fuck the slow-mo.